Holly s'éclipse pour aller voir la salle de bain. Hodges se carre sur sa chaise, mains croisées derrière la nuque, coude largement écarté. Son estomac récalcitrant n'est pas si récalcitrant que ça ce matin. Peut-être parce qu'il a pris du thé plutôt que du café. Si c'est le cas, il va falloir qu'il fasse le stock de cette marque de thé anglais, TG Tips. Qu'il achète carrément des actions, oui. Il en a vraiment marre de cette constante douleur à l'estomac.
Tu veux bien me dire ce qu'on fait ici, Pete ?
Pete hausse les sourcils et essaie de prendre un air innocent.
Qu'est-ce que tu veux dire, Kermit ?
T'avais raison quand tu disais que ça ferait la une des journaux. C'est le genre de tragédie style feuilleton télé à la con que les gens adorent. Ça rend leur vie moins misérable.
Cynique, mais sans doute vrai, soupire Izzy.
Mais s'il y a un lien avec le massacre du City Center, il est plus casuel que causal.
Hodges n'est pas totalement sûr du sens qu'il a voulu donner à cette phrase, mais elle sonne bien.
Ce qu'on a là, c'est un cas classique d'euthanasie compassionnelle commise par une mère qui ne supportait plus de voir sa fille souffrir. Probable que sa dernière pensée avant d'ouvrir la bouteille d'hélium a été « On sera bientôt réunis, ma chérie, et quand je marcherai dans les rues du paradis, tu marcheras à mes côtés. »
Izzy ricane, mais Pete est pâle et pensif. Hodges se rappelle soudain qu'il y a très longtemps de ça, peut-être 30 ans, Pete et sa femme ont perdu leur premier enfant, une petite fille, mort subite du nourrisson.
C'est triste, et les journaux vont s'en gaver pendant un jour ou deux, mais ça arrive partout dans le monde tous les jours, toutes les heures, pour ce que j'en sais. Alors, dis-moi pourquoi tu m'as fait venir.
C'est probablement rien. Izzy dit que c'est rien.
Izzy confirme, dit-elle.
Izzy pense sûrement que je ramollis du cerveau à mesure que j'approche de la ligne d'arrivée.
Izzy réfute. Izzy pense seulement qu'il est grand temps que t'arrêtes de te laisser piquer par cette mouche nommée Brady Hartsfield.
Elle pose sur Hodges ses yeux gris ténébreux.
Madame Gibney, là-bas, a beau être une boule de tic nerveux et se livrer à d'étranges associations d'idées, elle a neutralisé Hartsfield en beauté, et je lui accorde tout le crédit qu'elle mérite. Il est maintenant HS à Kinner, dans cette clinique des traumas du cerveau, où il restera probablement jusqu'à ce qu'il attrape une pneumonie et en meure, économisant ainsi un paquet de fric à l'État. Il ne sera jamais jugé pour ce qu'il a fait, on le sait tous. Vous n'avez pas réussi à le coincer pour le City Center. Mais Gibney l'a empêché de faire sauter 2000 gosses à l'auditorium Mingo un an plus tard. Faut vous y résoudre, les gars. Considérez ça comme une victoire et tournez la page.
Waouh ! Lâche Pete. Depuis combien de temps tu gardais ça ?
Izzy essaie de ne pas sourire, mais ne peut s'en empêcher. Pete sourit en retour et Hodges se dit :
C'est un duo qui fonctionne aussi bien que Pete et moi à l'époque. Quel dommage de mettre un terme à si belle association. Vraiment dommage.
Un bon moment, répond Izzy. Allez, dis-lui maintenant.
Elle se tourne vers Hodges.
Au moins, c'est pas des petits hommes gris comme dans X-Files.
Quoi ? Demande Hodges.
Keith Frias et Krista Countryman, dit Pete. Ils se trouvaient aussi au City Center le matin du 10 avril. Frias, 19 ans, a perdu une bonne partie de son bras, plus 4 côtes cassées et des lésions internes. Il a aussi perdu 70% de sa vision à l'œil droit. Countryman, 21 ans, côte cassée, bras cassé et traumatisme rachidien, qui s'est résorbé après toutes sortes de thérapies douloureuses, auxquelles je ne veux même pas penser.
Hodges non plus. Mais il a souvent broyé du noir en pensant aux victimes de Brady Hartsfield. Surtout la façon dont 70 secondes atroces ont pu changer la vie de tellement de gens pour des années. Ou dans le cas de Martin Stover, pour toujours.
Ils se sont rencontrés à des séances de thérapie hebdomadaire, dans un endroit qui s'appelle La Guérison, c'est vous, et ils sont tombés amoureux. Ils commençaient à aller mieux, tout doucement, et ils envisageaient de se marier. Et puis en février de l'année dernière, ils se sont suicidés ensemble. Pour reprendre les paroles d'une vieille chanson punk de Robbie Fulks, je crois, ils ont pris beaucoup de cachets et ils sont morts.
Hodges revoit le petit broyeur sur la table à côté du lit médicalisé de Stover. Le broyeur avec ses résidus d'oxycodone. Maman a dissous toute l'oxy dans la vodka. mais il devait rester plein d'autres narcotiques sur cette table de nuit. Pourquoi s'est-elle compliqué la tâche avec le sac plastique et l'hélium, alors qu'elle aurait pu avaler une poignée de Vicodine, la faire passer avec une poignée de Valium et s'en tenir à ça?
Les suicides de jeunes gens comme Frias et Countryman, ça se produit aussi tous les jours, dit Izzy. Leurs parents ne croyaient pas tellement à ce mariage. Ils voulaient qu'ils attendent. Et ils pouvaient difficilement s'enfuir ensemble, pas vrai? Frias pouvait à peine marcher, et ni l'un ni l'autre n'avait de travail. L'assurance leur permettait juste de payer les séances de thérapie et de participer pour les courses. Mais rien de comparable avec la couverture royale que touchait Martin Stover. Tout ça pour dire qu'il y a des fois où ça merde. On peut même pas appeler ça une coïncidence. Les gens gravement blessés dépriment. Et parfois, les gens déprimés se suicident.
Où ont-ils fait ça?
Dans la chambre de Frias, répond Pete. Ses parents étaient au parc d'attractions Six Flags pour la journée avec son petit frère. Ils ont pris les cachets, se sont mis au pieu et sont morts dans les bras l'un de l'autre, comme Roméo et Juliette.
« Roméo et Juliette sont morts dans un tombeau !» dit Holly en revenant dans la cuisine. « Dans le film de Zeffirelli, qui est franchement le meilleur. »«
Ok, d'accord, pigé, la coupe Pete. Pas une chambre, un tombeau. »
Holly a le inside view qui se trouvait sur la table basse à la main, plié de telle sorte que sur la photo de couverture, Johnny Depp a l'air bourré, défoncé ou mort. Était-elle au salon en train de lire un magazine à scandale pendant tout ce temps? Si c'est le cas, alors Holly a vraiment un passage à vide ce matin. Pete demande.
« Vous avez toujours la Mercedes, Holly? Celle que Hartsfield a volée à votre cousine Olivia? »
Non. Holly s'assoit, tenant le magazine plié sur ses genoux sagement serrés. « Je l'ai changé contre une Prius comme celle de Bill en novembre dernier. Elle consommait énormément d'essence et n'était pas respectueuse de l'environnement. Et puis, ma thérapeute me l'avait recommandée. Elle disait qu'après un an et demi, j'avais certainement exorcisé son emprise sur moi et qu'elle n'avait plus de valeur thérapeutique. Pourquoi cette question ?»
Pete se penche en avant sur sa chaise, main jointe entre ses genoux écartés.
Hartsfield est entré dans la Mercedes grâce à un gadget électronique qui déverrouillait les portières. Le double des clés était dans la boîte à gants. Peut-être qu'il savait qu'elles étaient là. Ou peut-être que la tuerie du City Center a été un concours de circonstances. On ne le saura jamais vraiment.
Et Olivia Trelawney, pense Hodges, ressemblait beaucoup à sa cousine Holly, nerveuse, sur la défensive, tout sauf sociable. Loin d'être bête, mais pas facile à aimer. On était sûr qu'elle avait laissé sa voiture ouverte avec les clés sur le contact, parce que c'était l'explication la plus simple. Et parce qu'à un niveau primitif où la pensée logique n'a aucun pouvoir, on voulait que ce soit l'explication. C'était une emmerdeuse. On voyait ses démentis répétés comme un refus arrogant de reconnaître sa propre négligence. La clé qu'elle avait dans son sac, celle qu'elle nous a montrée, on a présumé que c'était son double. On l'a harcelée. Et quand la presse a su son nom, les journalistes l'ont harcelée à leur tour. Finalement, elle a fini par croire qu'elle avait fait ce que nous croyons qu'elle avait fait, permis à un monstre de réaliser son désir de massacre. Aucun de nous n'avait envisagé l'idée qu'un geek ait pu bricoler pareil gadget, y compris Olivia Trelawney.
Mais on n'a pas été les seuls à la harceler.
Hodges n'a pas conscience d'avoir parlé tout haut, jusqu'à ce qu'ils se tournent tous vers lui. Holly lui adresse un petit hochement de tête, comme s'ils avaient suivi le même fil de pensée. Ce qui ne serait pas complètement étonnant. Hodges poursuit.
C'est vrai, on l'a jamais cru. Peu importe le nombre de fois où elle nous a répété avoir pris ses clés et verrouillé la voiture. On a donc notre part de responsabilité dans sa mort. Mais Hartsfield, lui, s'en est pris à elle avec préméditation. C'est là que tu veux en venir, n'est-ce pas?
Oui, dit Pete.
Ça ne lui suffisait pas d'avoir volé sa Mercedes et de s'en être servi comme arme de crime. Il est rentré dans sa tête. Il a même piraté son ordinateur avec un programme audio truffé de cris et d'accusations. Et puis, il y a eu toi, Kermit.
Oui, il y avait eu lui. Hartsfield lui avait envoyé une lettre de menace anonyme quand il était au plus bas. À l'époque, il vivait seul, dormait mal, ne voyait quasiment personne, excepté Jérôme Robinson, le gamin qui tondait sa pelouse
et faisait diverses réparations pour lui. Il souffrait d'un mal répandu chez les flics, la dépression post-fin de ronde.
« Il y a un taux de suicide extrêmement élevé chez les policiers retraités », avait écrit Brady Hartsfield. C'était avant qu'il ne se mette à communiquer par la méthode préférée du XXIe siècle, l'Internet.
« Je ne voudrais pas que vous vous mettiez à penser à votre arme, mais vous y pensez déjà, n'est-ce pas ?»
C'était comme si Hartsfield avait flairé les pensées suicidaires de Hodges et cherchait à le pousser à bout. Ça avait marché avec Olivia Trelawney, après tout, et il y avait pris goût.
« Quand j'ai commencé à travailler avec toi, » dit Pete, « tu m'as dit que les criminels récidivistes étaient un peu comme des tapis turcs, tu te souviens ?»«
Oui. »
C'était une théorie qu'il avait exposée à bon nombre de flics. Peu l'écoutaient, et à en juger par son air ennuyé, il supposait qu'Isabelle Janes aurait fait partie de ceux qui n'écoutaient pas. Pete, lui, l'avait écouté.
Il recrée les mêmes motifs, encore et encore. Ne fais pas attention aux légères variations, tu disais, et recherche la similitude sous-jacente. Car même les criminels les plus intelligents, comme Turnpike Joe, qui a assassiné toutes ses femmes sur des aires de repos, semblent avoir un bouton coincé sur le mode repeat dans le cerveau. Hartsfield était amateur de suicide.
C'était un architecte du suicide, dit Holly.
Elle regarde le magazine sur ses genoux, sourcils froncés, le visage plus pâle que jamais. C'est dur pour Hodges de revivre l'affaire Hartsfield. Au moins, il a enfin réussi à arrêter d'aller voir le fils de pute dans sa chambre de la clinique des traumas du cerveau. Mais c'est encore plus dur pour Holly. Il espère qu'elle ne va pas rechuter et se remettre à fumer. Mais ça l'étonnerait pas.
Appelez ça comme vous voulez, mais les motifs étaient là. Il a poussé sa propre mère au suicide, pour l'amour du ciel.
À ça, Hodges ne répond rien. Bien qu'il ait toujours douté de la théorie de Pete, selon laquelle Deborah Hartsfield se serait suicidée, en apprenant, peut-être par accident, que son fils était le tueur à la Mercedes. D'une part, rien ne prouve que Madame Hartsfield ait découvert quoi que ce soit. D'autre part, la pauvre femme avait ingéré du poison pour rongeur, et ça avait dû être une façon atroce de partir. Il est possible que Brady ait assassiné sa mère, mais Hodges n'y a jamais vraiment cru non plus. S'il aimait quelqu'un, c'était elle. Non, Hodges pense que le poison était peut-être destiné à quelqu'un d'autre, et peut-être pas une personne du tout. D'après l'autopsie, le poison avait été mélangé à du steak haché. Et s'il y a bien une chose que les chiens adorent, c'est une boulette de viande hachée crue. Les Robinson ont un chien, un adorable cabot aux oreilles tombantes. Brady l'aurait vu plus d'une fois, parce qu'il observait la maison de Hodges et que Jérôme amenait généralement son chien avec lui quand il venait tondre la pelouse. Le poison pour rongeur aurait pu être destiné à Odell. C'est une idée qu'il n'a jamais partagée avec les Robinson. Ni avec Holly, d'ailleurs. Et puis, c'est peut-être que des conneries. Mais selon Hodges, c'est tout aussi plausible que la théorie de Pete. Izzy ouvre la bouche pour parler, puis la referme quand Pete lève la main pour la couper. Après tout, c'est lui le doyen dans ce binôme, et de loin.
Izzy s'apprête à dire que le cas Martin Stover est un meurtre, pas un suicide. Mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que l'idée soit venue de Martine elle-même, ou qu'elle et sa mère en aient discuté ensemble et soient parvenues à un accord, ce qui, de mon point de vue, équivaut à deux suicides, même si ce n'est pas ce qui figurera dans le rapport.
J'imagine que tu es allé voir du côté des autres survivants du City Center, demande Hodges.
Tous en vie, sauf Gerald Stansbury, qui est mort l'an dernier juste après Thanksgiving, dit Pete. Crise cardiaque. Sa femme m'a dit qu'il y avait pas mal de cas de maladies cardiovasculaires dans sa famille et qu'il avait vécu plus longtemps que son père et son frère. Izzy a raison. C'est probablement rien. Mais j'ai pensé que vous devriez savoir, toi et Holly.
Il les regarde tour à tour.
Vous avez pas eu des idées suicidaires ces derniers temps, hein ?
Non, dit Hodges. Pas dernièrement.
Holly secoue simplement la tête, les yeux toujours posés sur son magazine. Hodges demande.
Je suppose que personne n'a trouvé de mystérieuses lettres Z dans la chambre des jeunes Frias après son suicide avec Mademoiselle Countryman ?
Bien sûr que non, répond Izzy.
À ta connaissance, la corrige Hodges. C'est pas ce que tu veux dire ? Étant donné que tu viens juste de découvrir celle-ci ?
Oh, je t'en prie, dit Izzy. Tout ça est absurde. Elle regarde ostensiblement sa montre et se lève.
Pete se lève aussi. Holly reste assise, regardant son numéro d'Inside View voler.
Hodges ne bouge pas non plus, du moins pour le moment.
Tu iras vérifier les photos Frias Countryman, hein, Pete ? Juste pour être sûr.
Oui, mais Izzy a raison, c'est absurde. J'aurais pas dû vous demander de venir.
Je suis content que tu l'aies fait.
Et je m'en veux toujours de la façon dont on a traité Madame Trelawney, ok ?
Pete regarde Hodges. Mais Hodges a dans l'idée que c'est à la femme frêle et pâle avec le magazine People sur les genoux qu'il s'adresse réellement.
Dès le début, je me suis persuadé qu'elle avait laissé ses clés sur le contact. Je me suis fermé à toute autre possibilité. Je me suis promis de ne plus jamais faire ça.
Je comprends, dit Hodges.
Une chose sur laquelle on peut tous se mettre d'accord, dit Izzy, c'est que le temps où Hartsfield écrasait des gens, essayait de les faire sauter ou de les pousser au suicide est loin derrière lui. Donc, à moins qu'on ait tous atterri dans un film appelé « Le fils de Brady », je suggère qu'on quitte la maison de feu Madame Ellerton et que chacun reprenne ses petites affaires. Des objections ?
Aucune objection,